Nous allons réfléchir sur un autre aspect de la réflexion que l'on peut faire à propos de la foi. Comment je reste sereinement chrétien alors qu'il y a des milliards de gens qui sont plus intelligents que moi et qui ne partagent absolument pas mes convictions religieuses. Je pense à tous les musulmans, par exemple, qui font 5 fois par jour leur prière, pas tous, mais un bon nombre, qui n'ont pas peur de jeûner pendant 28 jours consécutifs le ramadan, jeûner pendant la journée et se rattraper le soir, et qui affirment que Jésus n'est ni mort ni ressuscité. Les musulmans pensent que Jésus était un homme trop merveilleux pour qu'Allah ait pu permettre qu'il meure sur une croix. Donc au dernier moment, c'est Simon de Cyrène, qui l'a remplacé et qui est mort sur la croix. C'est une pensée qu'on trouve dans certains évangiles apocryphes et qui a été reprise par le Coran. Et d'autre part, bien sûr, Jésus n'est pas ressuscité puisqu'il n'est pas mort. Les chrétiens disent « il est mort, il est ressuscité ». Les musulmans disent le contraire, il y a l'un des deux camps qui se trompe. On peut être d'accord avec les musulmans sur un certain nombre de points, notamment sur l'idée d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui nous pardonne, ce sont des idées chères aux musulmans, mais sur ce point fondamental de la foi chrétienne, on est en désaccord, et on sera toujours en désaccord. Il n'y a pas d'écuménisme possible avec les musulmans. On peut fonder des fraternités d'Abraham, on peut aussi faire des actions sociales humanitaires avec les musulmans, comme avec les juifs, mais il n'y a pas possibilité d'écuménisme avec les musulmans ou avec les juifs. Grand silence dans l'Assemblée. Hein? Non. C'est dommage que dans la semaine pour l'unité des chrétiens, on ait mis un jour de prière pour les musulmans et pour les juifs. Du coup, il y a un tas de braves chrétiens qui s'imaginent qu'il y a écuménisme possible avec eux. Non. L'écuménisme, c'est le désir de rapprochement entre catholiques, protestants, orthodoxes et anglicans. Nous sommes profondément d'accord sur l'essentiel, sur Jésus-Christ mort et ressuscité, Jésus fils de Dieu, la Trinité. Mais avec les musulmans et les juifs, ces autres monothéistes, il n'y a pas d'écuménisme possible. N'y a-t-il pas intolérance, fanatisme à dire qu'on est sûr de sa foi alors qu'il y a tellement de gens qui disent le contraire? C'est une question que se posent maintenant les élèves des classes primaires, parce qu'ils ont dans leur classe des enfants d'autres religions. Ou bien ils voient à la télévision des cérémonies de bouddhistes, de musulmans, d'hindous, extrêmement religieux, extrêmement pieux. Madame, pourquoi les chrétiens auraient-ils plus raison que les autres? Et malheureusement, beaucoup d'instituteurs ne savent pas répondre à la question. Ils se contentent de répondre, vous savez les enfants, Dieu nous jugera suivant notre bonne volonté. D'accord, madame, ça on l'a compris, mais qu'est-ce qui me dit que les chrétiens ont plus raison que les musulmans ou les juifs? Et c'est dommage de ne pas donner des éléments de réponse à des petits chrétiens de 6, 8 ans ou 10 ans, a fortiori à des adolescents de 15 ans ou à des étudiants de 22 ans. Je voudrais vous aider à répondre à cette question-là, qui est fondamentale pour l'évangélisation. Parce qu'il ne suffit pas de chanter « Christ est ressuscité » avec beaucoup d'alléluia ensuite pour en convaincre les autres. Et pour être convaincu soi-même, qu'est-ce qui me dit que le Christ est ressuscité? Hein? Donc, je n'insisterai pas sur le fait qu'on peut être à la fois sûr de sa foi et tolérant, comme Jean-Paul II semble l'être. Non seulement il semble l'être, mais il l'est. Je pense qu'il respecte profondément la foi des bouddhistes, si l'on peut dire foi à propos du bouddhisme, la conviction religieuse et spirituelle des bouddhistes, des hindous ou des musulmans, tout en étant absolument sûr que le Christ est ressuscité. On peut être à la fois en dialogue avec Dieu et en dialogue avec ses frères, ferme et ouvert. On a même souvent remarqué que les fanatiques sont souvent des gens qui ne sont pas tellement sûrs d'eux-mêmes et qui ont besoin de crier très fort pour se persuader d'une vérité dont ils ne sont pas bien convaincus. Quand on est ferme dans sa foi, on accepte facilement la contestation. On accepte le vent des contestataires soufflés sur le chêne que l'on est, ça ne vous déstabilise pas. J'ai fondé à Douai une amitié judéo-chrétienne, j'ai lié beaucoup d'amitié avec des juifs, je leur ai fait faire des conférences, ça ne m'a absolument pas déstabilisé dans ma foi. Au contraire. Je crois que vous comprenez bien cela. Les adultes comprennent cela immédiatement, qu'il n'est pas nécessaire d'être sceptique pour être tolérant. C'était jadis un sujet de baccalauréat. La tolérance suppose-t-elle le scepticisme ? Dans un premier temps, on a l'impression que le sceptique est plus tolérant, puisque n'ayant aucune conviction lui-même, il laisse toujours le dernier imbécile parler, donc il est toujours de l'avis du dernier qui vient de s'exprimer. Hein, il est tolérant parce qu'il est sceptique, parce qu'il ne croit en rien, mais il est facile de montrer dans une deuxième partie que plus on est croyant, plus on est sûr de la vérité d'un certain nombre de valeurs, y compris de la valeur de tolérance. La tolérance ne suppose pas l'absence de conviction. Alors, devant ce pluralisme religieux qui est de plus en plus patent, hein, il n'y a plus personne qui vit maintenant dans un village où tout le monde est catholique, ça n'existe plus. D'abord, ils ne sont pas tous catholiques. Et puis, la télévision les oblige à voir qu'il n'y a pas que les catholiques dans le monde. Donc, devant ce pluralisme religieux, il y a trois attitudes réductrices que je n'adopte pas. Et nous verrons ensuite l'attitude proprement chrétienne. Devant ce pluralisme, les uns disent, bon, Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, il ne permettrait pas une telle diversité. C'est l'athéisme. Dieu existe, mais moins on en parle, mieux ça vaut. Nous savons simplement qu'il est un grand X, une intelligence supérieure qui est à l'origine du monde. C'est le déisme de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, du philosophe Alain. Ou bien, il faut trouver une nouvelle religion qui synthétise les religions précédentes, et ce sont toutes les sectes qui sont presque toujours des synthèses, des syncrétismes entre des religions préexistantes. Ou bien le courant du Nouvel Âge qui nous dit que nous allons vers un troisième millénaire qui aura une religion nouvelle, une religion de l'amour universel qui balayera toutes les autres religions. Et vous savez que le chiffre d'affaires de ces courants du New Age est quelque chose de très important dans toutes les librairies les librairies françaises. On vend 10 fois plus de bouquins comme ça que de bouquins chrétiens dans les FNAC. C'est le grand succès actuellement. Beaucoup des élites actuelles vont à l'université, par exemple, il y a beaucoup de professeurs qui étaient marxistes il y a une trentaine d'années et qui sont New Age aujourd'hui. Voyons cela d'un peu plus près. Premièrement, l'athéisme de ceux qu'on a appelés les maîtres du soupçon, les trois grands philosophes allemands du XIXe siècle, Marx, Nietzsche, Freud, qui soupçonnent la religion d'être un produit de déchets. Apparemment, la religion, c'est pas mal, ça donne les pagodes, les églises gothiques, les églises romanes, ça donne des chefs-d'œuvre religieux. Mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que le phénomène religieux, disent-ils, est toujours basé sur une misère humaine. C'est parce que les gens sont pauvres qu'ils inventent la religion. Quand on n'a rien à manger, on se console en disant que Dieu nous aime et qu'il nous récompensera dans une autre existence. C'est la thèse marxiste. La religion, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que ce sont les braves gens, les pauvres, qui ont inventé cet opium, et les riches ont eu tendance à les exploiter encore davantage en faisant taire leur ardeur révolutionnaire en leur disant « Si vous ne vous révoltez pas, votre récompense sera plus grande dans les cieux. » Même si vous n'êtes pas communiste, vous êtes tenté de l'être lorsque vous voyez que les pauvres du Burkina Faso se précipitent dans les églises et font chaque dimanche des kilomètres pour se rendre à une eucharistie. Vous êtes tenté d'être marxiste lorsque vous voyez que, en temps de guerre, les gens se précipitent dans les églises pour prier, pour demander à Dieu le retour de leurs prisonniers. On est tenté de penser, avec le marxisme, que la religion est liée à une misère économique. C'est ce qu'on a enseigné à tous les petits soviétiques pendant 70 ans sous le régime de l'URSS. Dans le cours obligatoire d'athéisme du dimanche matin, on a essayé de les persuader que la religion était liée à un manque de développement économique. Et que lorsqu'il y aurait suffisamment de frigidaires et d'autoroutes en URSS, eh bien, la religion disparaîtrait. Quand on pourrait passer de l'URSS à l'URCS, quand on arriverait enfin à l'Union des républiques communistes soviétiques et non plus seulement à l'Union des républiques socialistes soviétiques, lorsqu'on pourrait passer au stade ultime de l'histoire, la religion disparaîtrait d'elle-même et Solzhenitsyn n'existerait plus. Bon, heureusement que cette thèse ne s'avère pas exacte, on constate qu'il ne manque pas de pays développés où la religion revient en masse, c'est le phénomène qu'on ne pouvait pas prévoir du retour religieux à la fin du XIXe siècle. Le XVIIe siècle français, qui a été un grand siècle, hein, a été aussi un grand siècle religieux. La religion n'est pas forcément liée à la misère économique. Bon. Mais je ne vais pas faire un long développement là-dessus. Bon, Nietzsche pense que c'est lié à une misère de l'Occident. Freud pense que c'est la mort du père qui est à l'origine de la religion. Bon. Comme dit mon ami le père Manaranche, si les vocations religieuses sacerdotales étaient simplement dues au fait que les enfants ont une image mauvaise du père et de la mère qui ne veulent pas se marier, alors, à l'heure actuelle, les séminaires devaient être pleins. S'il suffisait d'avoir un papa et une maman qui ne vous ont pas aimé pour rêver d'un papa et d'une maman du ciel, alors qu'est-ce que ça donnerait au point de vue vocation ?